Et une nouvelle émission pour l'économie en question. Et nous poursuivons ce matin encore l'examen des grands enjeux pour l'année à venir. Et nous parlons de monnaie, une entrée capitale pour tenter de comprendre la marche du monde, les intentions des gouvernements. Et ce n'est pas très simple, chacun s'accorde à le dire aujourd'hui, concernant les États-Unis. Les 100 premiers jours de Donald Trump sont attendus, disons, avec une certaine fébrilité par les marchés de change. Que fera le président? Va-t-il prolonger la hausse du dollar, observée aussitôt après son élection, ou au contraire la prévenir pour en faire une arme au service de la compétitivité? Des choix qui ne seront pas sans conséquences, bien sûr, pour les autres monnaies, les fortes comme les plus faibles, et à commencer par notre euro. La parité euro-dollar semble proche, est-elle pour bientôt, est-elle souhaitable? Nous tâcherons de répondre à toutes ces questions. Et puis, quelle sera la politique monétaire de la Chine, qui entend lutter de son côté pour enrayer la dépréciation du yuan? Elle vient de relever son taux de référence face au dollar. Ira-t-elle plus loin encore? Peut-elle compter sur le concours du mystérieux Bitcoin, la monnaie électronique apparue en 2008 pour faciliter les transactions sur Internet et qui a vu son cours doublé en 2016. On verra ce que cela signifie. Un bitcoin vaudrait aujourd'hui près de 1000 dollars. Mais de quoi s'agit-il exactement? Comment expliquer l'engouement des investisseurs? Il y en a pour ce produit. Explication, commentaire, c'est tout de suite. Euro, dollar, yuan et donc bitcoin. 2017 sera-t-elle l'année des monnaies? Nous sommes contents de recevoir Agnès Benassi-Quéret, économiste, présidente déléguée du Conseil d'analyse économique, professeur à l'Université Paris 1, Anton Brender, chef économiste chez Candriam, et Jacques Favier, auteur du site La Voix du Bitcoin, cofondateur secrétaire du Cercle du Coin, mais pas du coin. Bienvenue à tous les trois, et je vous ai demandé à chacun de venir également avec un chiffre. Ce sera pour la toute fin de l'émission, c'est bien l'économie en question. Nous sommes ensemble jusqu'à 12h30 et bonjour à tous. Commençons par un petit retour sur les tout derniers chiffres. Les choses vont très vite en matière de monnaie. Encore ce matin, nous avons sans doute les uns et les autres consulté les derniers cours. L'euro se repliait hier, vendredi, face au dollar, qui se reprenait après deux jours consécutifs de baisse, qui profitait donc des chiffres plutôt encourageants qui viennent d'être publiés. C'était encore hier, vendredi, autour du chômage, même si c'est une toute petite baisse observée. Mais tout de même, on peut penser que Barack Obama sort sur un bilan positif sur ce front-là. Que fera Donald Trump? C'est quand même une question très centrale. Je regarde directement Anton Brender, qui connaît fort bien l'économie américaine. Peut-être un premier pronostic. D'abord, est-ce une bonne entrée, comme je l'ai prétendu dans mon chapeau, de parler de monnaie.
Parler de Donald Trump, c'est une très bonne entrée. Il n'y a aucun doute là-dessus.
Et de parler de monnaie pour juger 2017 à venir.
Alors juste, Donald Trump, effectivement, ça va être un des éléments, plutôt sa politique, ça va être un des éléments décisifs de ce qui va se passer dans l'année qui vient. L'évolution du dollar va en dépendre, mais jamais directement. Il faut juste rappeler que ce n'est pas le président des États-Unis, mais c'est même en principe les marchés. La réserve fédérale, elle se contente de décider du niveau des taux d'intérêt, et le reste, en principe, ce sont les marchés qui le déterminent. Alors, est-ce que ça risque de faire monter le dollar, de le faire baisser? Ça va dépendre beaucoup de ce que va faire Donald Trump, effectivement, de ce qu'il va décider de faire.
Et de ce qu'il a dit avant, mais il n'a pas toujours dit la même chose. Donc,
de ce qu'il va faire, et de ce que le Congrès laissera faire.
Est-ce que le Congrès laissera faire, Agnès Benassi-Quéret?
Alors, dans le domaine des prévisions, en général, c'est extrêmement difficile. On a beaucoup de mal à prévoir. Dans le domaine des monnaies, c'est encore pire. On peut simplement donner deux éléments. L'effet Trump sur le dollar. À court terme, s'il fait effectivement une relance budgétaire, et comme les États-Unis sont en régime de change flexible, ça fait monter le dollar, parce que ça fait monter les taux d'intérêt. Mais à plus long terme, il y a quand même un risque de perte de confiance dans le dollar. Notamment, j'ai commencé à voir qu'il voulait, par exemple, financer avec des bons à très long terme. La dette américaine est assez court terme. Et c'est ce qui plaît au marché. Ils aiment ces bons du trésor américain, très liquides, qui sont utilisés pour graisser, si vous voulez, le système financier international. Et là, s'il se met d'un seul coup à s'endetter à 100 ans, c'est pas totalement évident que la planète entière va se ruer sur ces actifs-là. Donc là, il y a un petit sujet. Et puis, de manière plus générale, on retrouve cette espèce de paradoxe qui qui a été déjà démontré dans les années 60 hein, par un économiste belge qui s'appelait Robert Triffin, qui est que quand on a la monnaie pivot du système monétaire international, qui est, c'est le cas du dollar,
c'est toujours le cas du dollar,
eh bien, on tend à en abuser. Et à un moment donné, eh bien, il va y avoir une perte de confiance. Alors, ce n'est pas que les États-Unis ne vont pas rembourser leurs dettes, c'est qu'ils vont rembourser avec une monnaie de singe qui sera une monnaie créée par la Banque centrale et donc qui vaudra de moins en moins. Et donc, il y a ce risque-là à plus long terme.
Oui. Revenons quand même sur les relations de Donald Trump, ou les futures relations de Donald Trump avec la Réserve fédérale, dont la présidente actuelle, Janet Yellen, finit son mandat en 2018, je pense, et il a déjà fait savoir qu'elle n'était pas son amie.
Enfin, il a eu des propos assez versatiles, hein, comme sur beaucoup de sujets. Parfois, à un moment, il l'a aimé beaucoup, à un moment, il ne l'aimait plus du tout. C'est vrai que c'est elle hein, qui, jusqu'en 2018, début 2018, va présider la Fed. Donc, c'est elle qui va influencer, dans une certaine mesure, la politique monétaire américaine. La politique de la Fed, que ce soit... Enfin, il faudrait vraiment qu'il y ait un président très, très, très différent de ceux qu'on a eu au cours des dernières décennies pour que la politique de la Fed ne soit pas une politique relativement professionnelle. Autrement dit, qu'elle décide que les décisions de politique monétaire soient prises avec une vision d'abord politique. Politique au sens, fais de la politique qui dépasse le champ de la politique monétaire, j'aide tel ou tel politicien, et en particulier le président. En fait, jusqu'à présent, ce qu'on a constaté, c'est qu'on a une réserve fédérale qui a mené une politique extrêmement technique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'énormes influences du nom du président de la Fed sur la politique qui est menée. Elle répond à des critères qui sont relativement précis, relativement professionnels, si je puis dire. Oui. Maintenant, tout peut changer, y compris le fonctionnement de la Fed. Mais il faudra quand même, à ce moment-là, un président assez différent de ceux qu'on a eu jusqu'à présent.
Encore un point, Donald Trump a quand même fait savoir qu'il y avait pas mal d'inconvénients d'une appréciation du dollar. Il ne souhaitait pas le voir remonter à ce point-là.
Bah, c'est tout le paradoxe, hein, parce qu'il a été élu sur...
Il veut protéger les entreprises américaines.
Voilà, donc, le premier effet, ça va être de dégrader la compétitivité américaine.
C'est fait.
Le contraire de ce qu'il a annoncé.
Simplement, il faut revenir aussi sur le fait que jusqu'à présent, ces marchés d'échange, si on regarde le court terme, ce qui se passe depuis quelques années, c'est une des rares choses qui fonctionne, en tout cas pour les grandes monnaies, hein, celles dont on parle aujourd'hui, enfin essentiellement l'euro et le dollar, c'est une des choses qui fonctionne le mieux sur la planète. C'est-à-dire que dans tout le système financier monétaire, une des choses qui fonctionne le mieux, c'est le cours de l'euro par rapport au dollar. C'est-à-dire que quand la zone euro va mal, l'euro a tendance à baisser parce que la politique monétaire va dans ce sens-là. Quand les États-Unis vont bien, le dollar monte, ça freine les États-Unis. Et donc le cours de l'euro-dollar, ça répartit assez bien la croissance entre la zone euro...
Est-ce que la parité est souhaitable alors ?
Du point de vue de la zone euro, oui. Pourquoi pas ? C'est une chose qui stimulerait notre activité.
Agnès Benassi-Quéré, Jacques Favier, s'il le souhaite,
ce que dit Antoine Brander, un commentaire. Ce que dit Antoine Brander est vrai, mais c'est relativement récent. Si on prend une vue plus longue, en fait, on constate que effectivement le dollar est monté quand l'économie américaine allait très bien et il a baissé quand elle allait mal. Mais par contre, dans la zone euro, c'était l'inverse. Et c'est d'ailleurs à l'origine d'une certaine insatisfaction par rapport au niveau de l'euro. Il a été fort qu'on aurait voulu qu'il soit faible et vice-versa. Et depuis la crise, depuis un peu après la crise, heureusement, l'euro a été affaibli, hein, il a chuté assez fortement, pas seulement par rapport au dollar, mais ce qui est très important, c'est par rapport aux autres monnaies, et donc malgré son appréciation par rapport à la livre sterling, qui est quand même, l'Angleterre est un partenaire plus important que les États-Unis hein,
pour l'Europe.
Ouais. Donc ça c'est vraiment encourageant, effectivement, que pour une fois, l'euro aille dans le bon sens.
C'est pas pour une fois, c'est qu'en fait, l'euro, le change dollar-euro, si on mène les bonnes politiques monétaires, c'est-à-dire politiques monétaires, dans la zone, on n'a pas mené une politique monétaire qui cherchait à stimuler nos économies. Les marchés d'échange n'avaient aucune raison d'aller dans le sens qui nous aurait aidé. Du moment où on a mené une politique monétaire qui était stimulante, les marchés d'échange en ont pris acte. On voulait plus stimuler dans la zone euro qu'on avait besoin de stimuler aux États-Unis. L'euro a baissé. Et ça, c'est effectivement ce qu'on constate. Est-ce que ça va se dégrader l'an prochain ? Pas forcément.
Jacques Favier, je vais vous faire un commentaire sur tout ce qu'on entend là. On va revenir à votre monnaie.
Alors, un commentaire sur...
à votre monnaie improbable, le Bitcoin.
Un commentaire sur le dollar et sur Trump, j'en ai pas vraiment à formuler, sauf j'ai noté avec intérêt que certains membres de l'administration Trump étaient intéressés, voire favorables au développement des échanges décentralisés et à la monnaie cryptographique. Oui.
Alors, la monnaie cryptographique, donc, c'est ce fameux Bitcoin, j'ai dit, apparu en 2008, 2009, je crois, au tout début 2009.
Le papier blanc universitaire a été diffusé en octobre 2008, avec une certaine concomitance avec les catastrophes que vous savez, et le premier bloc a été miné le 3 janvier 2009.
Qu'est-ce qu'elle représente cette monnaie aujourd'hui? Parce qu'on est tous très curieux, on le sent, hein, y compris nos auditeurs parfois nous demandent si on en parle. Et tout. Donc, par rapport à ce que nous venons de dire là, ces deux grandes monnaies très fortes, on va parler des plus faibles aussi, hein, je voudrais qu'on en dise un mot, notamment influencé par ce que nous avons dit sur le dollar. Mais qu'est-ce qu'elle représente cette monnaie en volume?
Je crois que Bitcoin est très marginal dans vous appelez ça le jeu ou la guerre des monnaies comme vous voudrez, entre elles, mais il y a simplement une concomitance entre les aventures de Bitcoin et puis ce qui vient d'être évoqué. Pour fixer les idées, Bitcoin est très marginal même vis-à-vis du seul cash des monnaies légales. Bitcoin aujourd'hui c'est une petite quinzaine de milliards d'euros ou de dollars. C'est rien par rapport aux 1100 milliards d'euros de billets de banque émis par la BCE. Il y en avait 740 milliards en janvier 2009. C'est rien par rapport aux 1380 milliards de dollars cash en papier. Il y en avait 783 au moment de l'apparition de Bitcoin. C'est même rien par rapport aux 800 milliards que représentent à peu près les 20 000 tonnes d'or détenues de façon privée dans le monde. Donc,
mais alors pourquoi en parle-t-on autant?
On en parle pour plusieurs
pourquoi
raisons.
Pourquoi dit-on qu'il est au cœur de l'économie de la Chine?
Non, il n'est pas au cœur de l'économie de la Chine. C'est la Chine qui est au cœur, éventuellement.
C'est la Chine au cœur de l'économie du Bitcoin. Ce serait
plus exactement, oui. Non, Bitcoin représente une révolution à de nombreux égards et représente une nouveauté radicale. Ouais. Et c'est en ce sens qu'il est intéressant. Et puis, comme monnaie, il a une volatilité qui est peu supportable comme monnaie, instrument de règlement dans la vie quotidienne. Cette volatilité est beaucoup plus proche de celle d'une action de start-up. Bitcoin est à la fois une monnaie, une aventure, une start-up, un réseau, etc. C'est une toute petite monnaie, si vous la comparez au dollar ou à l'euro, et c'est une grande aventure qui commence.
Mais elle intéresse dans les situations de crise, y compris alors, politique.
Oui.
Pourquoi c'est une valeur refuge?
C'est clairement une valeur refuge. La vie de Bitcoin a été scandée de chocs exogènes. Le premier, celui qui l'a fait sortir du ghetto, c'est Chypre en 2013, la Grèce en 2015, les catastrophes annoncées. Il est clair que la démonétisation brutale...
Il remet son argent à l'abri?
La démonétisation brutale, il y a quelques mois, de 80% du cash en Inde, dans ces cas-là, vous mesurez immédiatement, il suffit de regarder les requêtes du mot Bitcoin sur Google. À Chypre, En Grèce, 2 ans plus tard, en Inde, on mesure le nombre de requêtes Bitcoin et il peut être multiplié par 5 dans la journée après ce genre de choc.
Et beaucoup en Asie, mais ça vous l'avez dit hors micro, parce qu'on aime le jeu. Il y a quand même une part de
Le Bitcoin de a risque. Certaines fonctionnalités qui lui permettent d'être approprié à certains usages.
Agnès Benassiguerre, oui. Est-ce que tout cela n'a rien à voir avec ce que nous Alors, avons dit en commençant entre euro et dollar?
On voit effectivement que le Bitcoin remplit des fonctions lorsque le système monétaire dysfonctionne dans certains pays, comme la Chine et l'Inde aujourd'hui. Mais si on prend une perspective un peu longue, ça me laisse quand même un peu perplexe. Le Bitcoin a 3 caractéristiques très spécifiques. La première, c'est le tarissement progressif des émissions de Bitcoin. Le deuxième, c'est que...
Il y en a de moins en moins.
Il y a de moins en moins créé.
Oui, donc il a été conçu. Volume, c'est pas un défaut. Il a été conçu comme ça, comme l'or.
Alors, voilà. Comme l'or, exactement.
Avec une extraction de plus en plus coûteuse.
Sauf que, contrairement à l'or, il n'a pas de valeur marchande. On ne peut pas faire un collier avec du Bitcoin. Et par ailleurs, il n'a pas de cours légal. C'est-à-dire qu'il me semble qu'aucun commerçant n'est obligé d'accepter votre Bitcoin.
L'or non plus.
Nulle part. Oui, l'or non plus, je suis d'accord. Il a d'ailleurs pas mal de points communs avec l'or. Donc pour moi...
Sauf le collier.
Pour moi, ça en fait une monnaie qui, inévitablement, va devenir une monnaie de pure spéculation au bout d'un moment. Ça peut pas continuer à être une monnaie pour les transactions puisqu'il n'y en aura pas assez. Ça peut pas, il n'y a pas d'unité de compte. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un qui était payé en bitcoin avec sur sa feuille de salaire, son salaire en bitcoin?
Alors, je réponds un petit peu dans l'ordre. Sur la fonction d'étalon, c'est-à-dire d'unité de compte, contrairement à ce que vous pensez, il y a déjà eu des opérations, ce qu'on appelle les initial coin offerings, c'est-à-dire que, au lieu d'entrer en bourse, on rentre sur une blockchain. Par exemple, la seconde blockchain de taille, qui est celle d'Ethereum.
L'opération,
c'est-à-dire le système de transactions, de livres enregistrant des transactions d'une monnaie numérique. Il y en a une essentiellement, c'est Bitcoin, il y en a quelques autres, dont Ethereum, qui a fait parler d'elle pour d'autres raisons. Quand Ethereum s'est vendu au public, s'est introduite, ça s'est fait à raison de 2000 Ethers pour un Bitcoin. C'était à l'époque de votre première chronique, le moment où ça passait de 800 à 400. Et à aucun moment, on a dit aux gens, ah ben vous allez avoir un peu moins d'Ethers parce que le Bitcoin vaut un peu moins. Il était en train de baisser. Et un certain nombre d'opérations dans la cryptosphère sur des actifs digitalisés inspirés de la technologie qui sous-tend Bitcoin se font en Bitcoin. Les traders dans ce monde-là pensent en Bitcoin. C'est marginal.
Dans ce monde-là, mais pas dans l'eau.
Vous ne pensez pas en baht thaïlandais. Il y a des Thaïlandais qui pensent en baht thaïlandais.
Mais pas dans la vraie vie, c'est ce que vous veut dire Agnès Benassi.
Pas dans votre vraie vie.
Ça dépend de quelle vie on mène.
Hein. Absolument.
On est d'accord.
Mais je voudrais revenir à ce qu'Agnès disait. Une monnaie, ça a plusieurs fonctions. Je pense qu'on emploie le terme de monnaie pour le Bitcoin un peu à tort, parce qu'il y a une des fonctions, effectivement, de la monnaie qui est remplie par le Bitcoin, qui est la fonction de réserve de valeur. Autrement dit, ce qui fait vraiment... Parce que sur le plan purement technique, n'y connaissant rien, je trouve que c'est absolument génial. On a réussi à créer un objet électronique dont la rareté est programmée. Et le simple fait, et qui en même temps est infalsifiable, c'est-à-dire que,
c'est exact.
Sauf erreur de ma part, on ne peut pas faire des faux bitcoins.
Et donc vous avez quelque chose... Là encore, on repense à l'or.
Quelque chose, oui, mais absolument, c'est ce qui a été dit. Mais sauf que là, c'est un objet purement man-made, hein, un artefact, un truc qu'on a réussi à créer, et dont la rareté, je répète, est programmée. Et donc à partir de là, c'est naturellement ce qu'on cherche comme réserve de valeur. Il y a très longtemps, les gens collectionnaient, et même encore, on va collectionner des louis d'or qu'on ne peut plus refaire, vous voyez, sur lesquels il y a une lunette ou pas de lunette. Et selon que vous avez exactement le truc le plus rare, vous allez voir que ça devient des réserves de valeur, parce qu'il y aura toujours quelqu'un pour l'acheter. C'est un peu... Pardon. Et donc, c'est pour ça aussi qu'on constate que lorsqu'il y a des crises sur ce qui sert de réserve de valeur, c'est-à-dire par exemple des billets de banque, ou un doute sur la valeur d'une monnaie, c'est pas pour rien qu'on a parlé de la Grèce, qu'on a parlé de Chypre,
voilà,
qu'on a parlé
de ces pays-là.
Ou même une indisponibilité, puisque à un moment, on ne pouvait plus tirer de l'argent dans les... Eh bien, à ce moment-là, il y a des gens, pas beaucoup, parce qu'il faut quand même rappeler que les transactions sur les bitcoins, c'est infinitésimal.
Je voudrais revenir là-dessus, parce que, justement, il y a quelque chose...
Juste pour finir.
Je dis juste que, dans ces moments-là, il y a une poignée de gens. Une poignée au niveau de la planète, ça peut faire plusieurs milliers de personnes, hein, et bien qui se reportent sur le Bitcoin et qui se disent « je mets là mes sous parce que c'est une réserve de valeur et je trouverai toujours quelqu'un le jour où j'en ai besoin pour me racheter un peu plus cher ou un peu moins cher » parce qu'il faut rappeler que le cours du Bitcoin est terriblement volatile, tout simplement pour cette même raison. Ouais. C'est qu'on se tourne vers le Bitcoin.
1000 dollars aujourd'hui, hein, je le rappelle.
Il remontera parce que sa rareté est programmée.
Mais alors, l'exemple de la Chine, j'y reviens, on dit en Chine, justement, il sert de protection contre la baisse continue du yuan. Les épargnants, par exemple, ont tendance
Antoine Brander vient de bien en parler, d'admettre effectivement que c'est une réserve de valeur. Je voudrais reprendre deux choses.
On n'a pas à admettre, on le constate.
Voilà, c'est pas une constatation. Maintenant, ça ne peut assumer que cette fonction de la monnaie. Je crois, ça peut être viré. Il y a une chose que vous ne pouvez pas faire avec vos euros. C'est virer 5 centimes au Japon. Allez à votre banquier, demandez-lui d'envoyer 5 centimes au Japon. Et il ne peut pas. Demandez-lui d'envoyer 5 millions au Japon. Vous allez voir arriver les policiers qui vont vous demander d'où ça vient, pourquoi vous le faites, etc.
Donc, il a une capacité de virement. Vous avez tout dit quand vous avez dit ça, effectivement. Si on ne veut pas voir arriver les policiers, il faut servir le Bitcoin.
Non, mais ce n'est pas une bonne publicité pour le Bitcoin. Pour 5 centimes non plus.
Qui d'ailleurs a une réputation un peu sulfureuse.
On comprend pourquoi, effectivement. Si on le présente comme ça, moi je ne l'aurais pas fait comme ça.
Que ce soit pour 5 centimes ou pour 5 millions, le banquier ne pourra pas le faire. Et s'il le fait, il le fera en 3 jours. Envoyez 5 euros à Bruxelles, dans une filiale d'une banque française, ça prend 4 jours et on vous taxe 3,80 €. Donc le Bitcoin n'est pas seulement une réserve de valeur, c'est quelque chose qui est extraordinairement fluide.
Comme
doit l'être une monnaie.
Je crois que les transactions sur le Bitcoin, c'est un chiffre que j'ai lu mais je ne l'ai pas vérifié, c'est 700 milliards par an.
Alors, je voudrais
les transactions sur les marchés d'échange dont on parlait, c'est plus de 1000 milliards évidemment. Par jour.
Voilà.
Donc,
évidemment.
On est dans des
évidemment avec
domaines
un point intéressant, c'est que quand on parle de la volatilité du Bitcoin au jour le jour, elle est énorme. Quand vous regardez la courbe sur un an, deux ans, avec un certain recul et en enlevant des bulles manifestes qui sont assez facilement situables et qui sont presque toujours chinoises, vous pouvez corréler la courbe du cours du Bitcoin avec la courbe du carré du nombre de transactions quotidiennes, ce qui est une démonstration illustrée assez amusante de la loi de Metcalf, c'est-à-dire que la valeur d'un réseau augmente de façon quadratique par rapport au nombre de nœuds, au carré 2, comme beaucoup de choses dans la nature.
C'est déjà pas simple.
Donc, le cours du Bitcoin, il est spéculatif, oui, à court terme, oui, bien sûr, mais quand vous le regardez regardez, il a sa rationalité. Et sa rationalité, absolument, c'est celle du nombre de transactions. Et, ce nombre de transactions se développe.
C'est ma dernière question sur le Bitcoin précisément. Après, on va réélargir encore aux autres monnaies. Est-ce qu'il a de l'avenir? Vous dites sa valeur, là, il est de plus en plus rare, il est de plus en plus... Est-ce qu'il a de l'avenir ?
Il a de l'avenir pour plusieurs raisons, parce qu'il crée son propre avenir. C'est-à-dire qu'il y a une technologie qui a été créée qui permet de rendre des objets digitaux traçables, horodatables, non copiables. Et ça, ça peut être le cas pour énormément de titres paramonétaires, des bons de réduction, des vouchers, etc. Ça peut être le cas pour ce qu'on appelle les smart contracts. Il y a toute une économie qui se développe et je pense que plutôt que de condamner sur un point de vue un peu moralisant le Bitcoin, les responsables feraient mieux de se demander ce qui va arriver et comment on peut faire en sorte que ça se passe dans notre pays plutôt qu'ailleurs.
Agnès Benassi, un dernier
bien loin de moi la morale, je pas du tout condamner le Bitcoin, simplement je pense que ça montre en creux l'importance d'une banque centrale. C'est-à-dire qu'une banque centrale va émettre la monnaie en fonction des
car
besoins
de
l'économie.
Il n'y a pas de banque centrale, c'est vrai, j'aurais
aujourd'hui,
pu commencer
on est quand
ça.
Même bien content que la BCE crée beaucoup de monnaie. Hein, et si on avait une BCE gouvernée par des automates, eh bien, probablement qu'on serait dans une situation beaucoup plus mauvaise. Enfin, je pense qu'il y a un moment donné, et bon, ça c'est l'économiste qui revendique, il y a un moment donné où il y a quand même une analyse économique. La monnaie, c'est quelque chose qui est très important pour l'économie. Le Bitcoin se nourrit aujourd'hui de dysfonctionnements. En Chine, on voit qu'il y a un engouement extraordinaire. J'ai lu quelque part 95% des transactions dans le monde, c'est en Chine. Donc voilà. Pourquoi ? Parce que le gouvernement a interdit aux Chinois de sortir leur argent à l'étranger. Et donc, ils se reportent sur le Bitcoin. Mais le jour où le gouvernement les autorise à investir en dollars, en yens, etc., le Bitcoin peut aussi bien s'effondrer.
Vous êtes en train de me dire que la situation n'est pas saine, en fait, si on agit de cette manière.
Une monnaie dont la vie est nourrie par les dysfonctionnements des autres monnaies, c'est pas extrêmement sain.
C'est peut-être son cours qui l'est, mais profondément, le Bitcoin n'est pas fait pour spéculer contre les monnaies de l'État. Le Bitcoin est fait pour développer une économie d'échange décentralisée.
Je crois qu'il ne s'agit ni de condamner, ni de dire que c'est fait pour spéculer contre. C'est juste que, exactement comme l'or, exactement comme les timbres rares, si vous voulez, mais on a fabriqué, et c'est très bien, quelque chose qui joue le même rôle que les timbres rares, que l'or, etc.
Ouais.
Mais dont on ne se servira pas massivement.
Ça n'était
moyen.
Pas dans le projet. Sinon, il aurait augmenté beaucoup plus vite. Ça n'était pas dans le projet, sans quoi il aurait augmenté beaucoup plus vite.
Et ce qui fait sa valeur, c'est justement que sa rareté est programmée. Sinon, on aurait quelque chose qui gonflerait effectivement en disponibilité et dont le prix à ce moment-là deviendrait complètement
On va voir ce qu'il deviendra. Je retiens quand même que tout ça se passe en situation de crise et d'incertitude assez forte sur les marchés.
Et c'est là où on se réfugie sur des réserves de valeur.
Alors, revenons justement à nos monnaies plus largement. Je ne sais pas si c'était le yen dans le titre de l'émission. On aurait pu prendre un peu de temps de tout dire. C'est symptomatique que je ne l'ai pas fait. Pourquoi ?
Eh bien oui, parce que le yen aurait pu devenir une monnaie internationale il y a quelques décennies et maintenant il a passé son tour.
Voilà. Il a passé son tour, l'expression. Eh bien, est-ce qu'en cas d'une politique de Donald Trump, donc déjà affirmée, on dit par exemple que ses déclarations contre le fameux mur qui ne sera sans doute pas construit entre le Mexique et les États-Unis, ou peut-être que oui, nous verrons, a déjà fait chuter le peso mexicain. Je veux dire, est-ce que cette politique dont nous parlons, incertaine de Donald Trump, peut toucher davantage les monnaies les plus fragiles?
Alors, je pense que c'est un des aspects les plus originaux de ce qu'on constate depuis un mois, c'est que la force de l'information et de la communication sur aussi bien l'économie que sur les marchés est énorme. On est en train de constater que la simple menace, par exemple, Donald Trump a dit, si vous faites une entreprise au Mexique au lieu de la faire aux États-Unis, je mettrai des droits de douane. Même s'il ne met pas les droits de douane, le simple fait de créer une incertitude sur le fait que demain il y aura peut-être des droits de douane va pousser un certain nombre d'industriels américains à investir ailleurs qu'au Mexique et plutôt aux États-Unis.
Voilà.
Si je me protège contre le Mexique, c'est clair que le Mexique est moins bien placé pour exporter. S'il est moins bien placé pour exporter, ou s'il y a moins d'investissements qui viennent au Mexique, le peso mexicain est affaibli. Et c'est ce qui s'est passé. Et donc, il y a un pouvoir extrême de Donald Trump tout seul, avec son tweet, d'influencer aussi bien les décisions des industriels sans même passer par le Congrès dans tous les cas.
Simplement en annonçant son protectionnisme,
en menaçant,
son isolationnisme.
C'est quelque chose qui se constate.
Mais selon ça, je vous disais évidemment le Mexique, mais je crois le Pérou, la Colombie, le Canada aussi.
Bien sûr, il fera
le Canada,
la même chose.
Puisqu'il veut dénoncer d'autres accords.
Tous ceux qui seront visés par ces menaces.
La Corée du Sud, très active, on le sait. Tous ces pays-là. Ouais. Jacques Favier voulait ajouter autre chose sur ce point.
Avec un côté tellement imprévisible que la banque Saxo Bank, qui diffuse chaque année 10 prévisions chocs et provocatrices, a annoncé le Bitcoin à 2 000 $ en devant cette performance à l'incertitude liée à M. Trump.
Agnès Benassi-Carré, sur les autres monnaies, on a parlé des plus fortes, mais donc les faibles.
Mais c'est fascinant de voir à quel point les monnaies réagissent par rapport à des choses qui n'ont pas encore lieu. Mm-hmm. Avec le Brexit, le lendemain du vote, le 23 juin... Des Britanniques, la livre a commencé à baisser et bon, on ne sait toujours pas comment va se passer le Brexit, mais ça y est, c'est tout incorporé sur les marchés. Alors, comme le marché peut se tromper, parce que finalement, peut-être que les politiques vont être complètement différentes. Mais de manière générale, moi, ce qui m'a frappé en 2016, c'est qu'on a eu des événements politiques absolument majeurs et les marchés ont été quand même relativement placides. Par rapport à tout ça.
On résistait par rapport à ça. Pas mal de sang-froid, comme vous voulez dire, finalement.
Il y a, comme on dit, beaucoup de résilience les marchés, et heureusement.
La livre sterling, c'est vrai, on en dit un mot quand même. Qu'en attendez-vous dans l'année? Qu'est-ce qui peut se passer? Mais là encore, on ne sait pas très bien comment ce Brexit va s'organiser.
Il va y avoir simplement peut-être quelques secousses en mars, parce que si en mars, le fameux article 50 qui doit déclencher le décompte, le chronomètre pour le Brexit, si le gouvernement britannique n'arrive pas avec quand même des positions relativement claires, parce qu'aujourd'hui, ça a l'air quand même un peu de patauger, ou alors c'est une stratégie extrêmement fine, très fine, mais il semble que le gouvernement britannique ne sache pas trop comment prendre le sujet, et il ne reste plus que 2 mois. Donc,
C'est la une de The Economist, qui est assez drôle d'ailleurs, sur les incertitudes de Madame May. Dernier mot, Jacques Favier, sur ce thème, on passe à nos chiffres.
Une remarque sur nos amis britanniques, il semble que de toutes les banques centrales qui toutes travaillent sur quelque chose qui soit Bitcoin-like, la Bank of England soit, avec l'aide de chercheurs pointus de Cambridge, de University College, en train de fabriquer quelque chose qui ressemblerait au Bitcoin. Et donc là, vous pouvez avoir de nouvelles surprises pour 2017 et 2018.
C'est annoncé, Antoine Brender ? Vous allez être sceptique sur ce que je viens
de
dire ?
Non, toutes les banques centrales et même les banques privées sont en train de réfléchir à des monnaies qui ressemblent au Bitcoin, mais qui seraient l'euro, le dollar, simplement avec un support complètement électronique et la possibilité de faire des transactions directement entre particuliers, sans passer par des banques.
Ça ne peut concerner que les banques centrales.
Non, c'est la technologie du Bitcoin qu'on retrouvera derrière la monnaie, les monnaies qu'on connaît.
C'est ce que nous verrons, et notamment au cours de cette année 2017. On passe aux chiffres. Lequel avez-vous retenu qui veut commencer, Agnès Benassi-Carré?
Alors, mon chiffre, c'est 1756, qui est le coût du travail pour un travailleur détaché polonais qui travaillerait en France au niveau du salaire minimum. Et c'est à comparer au coût du travail pour un SMICAR français qui est 1681 €. Et donc, le français est moins cher que le polonais. Ça, c'est un calcul qui a été fait par le Trésor, qui est en ligne, ce Trésor Eco, de juin 2016. Et ce qu'il démontre, c'est que le problème avec les travailleurs détachés, ça n'est pas celui du dumping social, mais c'est bien celui de la fraude. C'est parce que, on va payer au SMIC quelqu'un qui est en fait ingénieur ou architecte, ou parce que le nombre d'heures ne sera pas le vrai nombre d'heures. Voilà. Et donc, c'est par rapport à aux discussions actuelles sur les travailleurs détachés, ce qui est important, c'est de lutter contre la fraude. C'est pas de lutter contre le détachement lui-même.
1756, ce chiffre d'Agnès Benassi-Carré, le vôtre, Antoine Brender.
2,9, j'avais peur que vous le donniez au tout début de l'émission. C'est le taux de croissance du salaire horaire américain.
Ah oui, les derniers chiffres sur l'emploi.
L'année qui vient de s'écouler, il aura fallu 7 ans pour qu'on revienne sur un rythme de hausse des salaires aux États-Unis, du salaire horaire qui soit celui d'avant la crise.
Et plutôt bon bilan pour Barack Obama, je l'ai dit en commençant, en termes d'emploi.
Il a quand même mis pratiquement toute sa présidence pour faire remonter le rythme de hausse.
Il y est parvenu. Jacques Favier, très vite, votre chiffre aussi.
1517, moi je suis historien, c'est une date. Il y a 500 ans, mourait Luca Pacioli, que la plupart des gens considèrent comme l'inventeur de la comptabilité en partie double. Ce franciscain qu'on a surnommé le moine ivre de beauté a aussi écrit un livre, le De Divina Proportione, qui est illustré par Vinci et où il présente 60 types de polyèdres. À partir de là, la peinture devient intelligente et la taille des pierres crée de la richesse. La mathématique a créé de la beauté et de la richesse.
Merci. Merci, c'est bien joli. Jacques Favier, auteur du site La Voix du Bitcoin, on saura tout en allant sur son site. Il est l'homme du Bitcoin, le cercle du coin. Merci à tous les trois. Merci aussi à notre petite équipe, Laetitia Koya, avec Dali Yaya aujourd'hui. Et ce sera tout de suite les informations, mais venez nous trouver sur notre site L'économie en question et sur Twitter, nous y sommes aussi. Très bonne journée à tous.